Mémoire et Vigilance vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.
Mémoire et Vigilance, une émission de Claude Boscherbert. Chers amis, bonsoir. Avant de laisser la parole à Gabrielle Rochman, donc directrice adjointe de la Fondation Mémoire de la Shoah, accompagnée de Galit Touati, chargée de mission, je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire. Alors tout d'abord, le 18 janvier à 16h30 au Théâtre du Nord-Ouest, dans le Faubourg Montmartre, se tiendra une lecture musicale animée par Amel Chitrit et Martine Gabriel-Konowski, donnant la parole aux poètes tels que Charlotte Delbault, Nelly Sachs, Benjamin Fondane, Ossip Mandelstam. Le 29 janvier à 19h, à la salle Brabant, 5 avenue Velasquez, dans le 8e, sera projeté le film « Le cri du ghetto résonne encore » réalisé par Joseph Finkelstein sur la trace de ses parents, dont sa mère Genia, rescapée du ghetto de Varsovie, que je recevais à cette antenne. Un débat suivra la projection. Sous l'égide de l'Association des Amis de Milo Adener, du grand rabbin Olivier Kaufmann, du président et du comité de la synagogue Charles Liché, en présence du grand rabbin de Paris et du président du consistoire, se tiendra le 80e anniversaire de l'ouverture du camp d'Auschwitz et des marches de la mort, le jeudi 30 janvier à 19h, en la synagogue de la place des Vosges. Le même jour, une date donc à retenir, à l'Académie de médecine, 16 rue Bonaparte, dans le 6e, se tiendra un colloque consacré à la santé des survivants de la Shoah et des enfants de survivants après la fin de la guerre, de 9h15 à 17h, donc une longue journée avec de nombreux intervenants et des personnalités médicales. Voilà, c'est avec un immense plaisir, un grand honneur, que je reçois donc Gabrielle Rochman, directrice adjointe de la Fondation, et Galit Touati, chargée de mission, qui se dévoue avec passion auprès de la Fondation, reconnue d'utilité publique, dont les fonds, qui proviennent de la restitution par l'État de la spoliation des Juifs de France, permettent de subventionner le mémorial de la Shoah, soutenir des projets aux seules fins de transmettre les connaissances de la Shoah et des autres génocides, de venir en aide aux survivants, de valoriser la culture juive et enfin de lutter contre l'antisémitisme et d'encourager le dialogue interculturel. Alors, cette fondation, vous m'arrêtez si je fais des erreurs, hein, cette fondation est présidée par Pierre-François Veil depuis 2023. Oui. Nous sommes d'accord, après la présidence de David de Rothschild. Il est important de rappeler que la fondation a été créée en 2000, il y a 25 ans, sous l'autorité et la présidence de Simone Veil, avec à ses côtés, à la vice-présidence, Serge Klarsfeld, président des Fils et Filles des Déportés Juifs de France. Alors, comme le souligne Philippe Allouche, le directeur général, plus que jamais, le souvenir de toutes les victimes de la Shoah et des survivants qui nous quittent inéluctablement nous oblige à continuer de transmettre leur mémoire, en particulier, il faut insister, aux jeunes générations et persévérer dans le combat contre la haine antisémite. Alors, Gabrielle Rochman, bon, on va dire la vérité, dans la vie courante, on se connaît, on se tutoie, on va continuer, on ne va pas faire semblant.
Avec plaisir, Claude.
Alors, nous sommes dans le 80e anniversaire des marches de la mort, à partir du 17-18 janvier 1945, et de l'ouverture du camp d'Auschwitz. Je préfère personnellement ce terme d'ouverture plutôt que de libération. Hein. De l'ouverture donc du camp d'Auschwitz-Birkenau par les troupes soviétiques, ça se passait le 27 janvier 1945. Ce qui augure, dans les prochains jours, tout un florilège de manifestations pour commémorer ces événements qui, après 5 ans de guerre et de mise en œuvre de la solution finale du peuple juif, s'inscrit, on peut le dire, à jamais dans les tablettes de l'histoire humaine. Et je sais, j'en suis sûr, que la Fondation est partie prenante pour toutes ces manifestations qui s'annoncent. Je ne me trompe pas.
Absolument pas. Alors, nous ne sommes pas partie prenante directement. Oui. Encore que, tu as mentionné tout à l'heure un colloque qui a lieu le 30 janvier,
oui,
qui est organisé par le CRIF et la Fondation pour la mémoire de la Shoah, en partenariat avec la MIF.
C'est ça.
Sous la houlette de notre cher ami Bruno Allois. Donc là, nous sommes aussi partie prenante dans l'organisation. Mais bien évidemment, comme le 27 janvier est une journée qui est organisée un peu partout dans le monde. Hein. D'abord avant tout à Auschwitz-Birkenau, où sont attendus un certain nombre de représentants de différents États, y compris de la France. En France, il y a un certain nombre de commémorations qui sont prévues, au mémorial de la Shoah, bien sûr, mais dans d'autres lieux de mémoire aussi, à travers la France, à l'UNESCO aussi. Donc ça se passera à 18h30.
Et puis, c'est une journée importante aussi à l'UNESCO.
Très importante. Oui. Et puis, à 18h30, l'Union des déportés d'Auschwitz organise, comme tous les ans, un ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe.
Oui, oui.
Et puis, il y a d'autres commémorations à Paris, dans les différents arrondissements, organisées soit par les mairies, soit par les associations militantes qui sont sur le terrain. En région aussi, on peut nommer à Izieux, au Cercil, à Lyon en particulier, où un nouveau monument dédié à la mémoire des déportés, dédié à l'histoire de la Shoah, va être inauguré ce prochain dimanche.
Oui. Alors, personnellement, comme vous le savez, je suis l'actualité donc des activités de la mémoire, j'ose à peine le dire, depuis plus de 4 décennies. Il me semble qu'avec le 81e anniversaire, alors est-ce que je me trompe, mais on n'a vraiment pratiquement pas vu la même chose, y compris avec le 60e ou le 65e anniversaire. C'est comme si on arrivait à une sorte d'aboutissement de cette longue histoire de la mémoire qui fait que peut-être à la faveur de ce qui se passe aujourd'hui dans les sociétés, c'est-à-dire aussi avec la recrudescence de l'antisémitisme, on a l'impression que d'une certaine manière, les pouvoirs publics, de partout, on met en quelque sorte l'accent véritablement sur ce 80e anniversaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on suit l'actualité aujourd'hui, en vérité, il est difficile de suivre toutes les manifestations, tellement il y en a. C'est la réflexion que je me fais, quoi.
Oui, je suis d'accord avec vous. Je crois qu'on assiste à la rencontre à la fois d'un élan commémoratif face à la disparition des derniers témoins. Donc il y a ce souci quand même et cette fidélité qui leur est dédiée. Certainement aussi un intérêt historiographique. On voit par exemple une grande activité du côté des chaînes de télévision. Qui, elles, ont une programmation très riche et très variée à l'occasion des cérémonies.
Oui.
Pour en citer quelques-uns, il va y avoir autour du 27 janvier énormément de films documentaires, et y compris des films de fiction sur ces thématiques. Et du coup, c'est vrai que le public est invité à s'intéresser par des biais différents, soit les commémorations, soit des publications, parce qu'on voit aussi que l'activité éditoriale est assez riche, soit à travers des films. Et en plus, peut-être que si on regarde quelques années en arrière, il me semble qu'il y a une grande nouveauté qui est très précieuse, c'est la possibilité désormais de regarder les films sur les plateformes de télévision et du coup de les regarder dans le temps, de les voir, de les revoir et de les consulter. Certains films qui ont été récemment soutenus par la Fondation pour la mémoire de la Shoah seront disponibles en ligne sur les sites de chaînes de télévision jusqu'en 2027, par exemple. Donc, du coup, ce sont d'autant plus de ressources disponibles pour le public et également pour les étudiants.
Alors, sans être pessimiste, mais je pose quand même cette interrogation, c'est que, il y a une sorte de fièvre, une fièvre mémorielle, on ne peut pas dire autre chose. Est-ce que, d'une certaine manière, quelques semaines après les événements, est-ce que ça ne risque pas de retomber ? Gabriel ?
Je ne crois pas.
Ah bon, tant mieux.
On l'a vu avant les événements et je pense après ces événements-là. C'est vrai que c'est un temps commémoratif extrêmement intense.
C'est ça, intense.
Qui est de tous ordres, sur tout support, comme le rappelait Galit. Je voudrais quand même dire aux auditeurs à quel point on est frappé par le nombre de projets, le nombre d'associations, d'organisations, de sociétés de production, de sociétés d'édition qui se tournent vers la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour pouvoir mettre en place des projets, des films, des documentaires comme la Digalite, des ouvrages. Mais je voudrais surtout insister sur l'investissement considérable des professeurs de tout établissement sur tout le territoire français. Cette année, on n'a jamais eu autant de projets pédagogiques à regarder, à examiner et à aider. On a dépassé la centaine. Et ça, c'est sans compter sur tout le travail qui est effectué dans les lieux de mémoire et au Mémorial de la Shoah, sur tous les projets pédagogiques qui sont portés par des professeurs. Et je crois que ça ne se tarit pas.
On est tout à fait d'accord. Simplement, moi, je parlais de l'effet médiatique. Maintenant, je sais parfaitement qu'on travaille beaucoup, et y compris du côté de l'éducation nationale. Et on le voit très, très bien avec le Mémorial de la Shoah que la Fondation soutient. On voit à quel point le public des jeunes générations, est présent au Mémorial sous l'autorité de leurs enseignants. Ça nous conforte d'une certaine manière parce que l'accent est mis sur l'éducation. Et je dirais que c'est quelque chose qui compte pour demain, parce que ça fait des graines pour demain.
Bien sûr, et c'est vrai au Mémorial, c'est vrai aussi à la Fondation du Camp d'Émile,
voilà.
Émile après d'Aix-en-Provence. Voilà. C'est vrai aussi dans d'autres lieux, que ce soit à Rivesaltes, la Maison d'Izieux, le Stroutoff, le Mont-Valérien. Enfin, il y a une fréquentation très importante de scolaires. Alors certes, ça ne touche pas à tous les scolaires, et on espère que
bien
dans
sûr.
Le temps, ça,
il faut,
ça,
il faut,
ça
il
sera
faut,
plus
il faut être confiant. Il faut être confiant. Oui, Galit.
Et puis d'autant plus que va être mis en pratique la prescription officielle de l'éducation nationale, qui est de visiter un lieu de mémoire une fois dans
sa
scolarité dans
Très
le
bien.
Secondaire.
Ça va se mettre en
Je
place
pense
à partir
que c'est
de
à la rentrée prochaine.
La rentrée prochaine. Ça, c'est ça, vous suivez ça de près
aussi. Oui, on est tenu au courant régulièrement, et effectivement, le Mémorial coordonne également les activités du réseau des lieux de mémoire de la Shoah en France. Donc les différentes institutions sont désormais partenaires, travaillent entre elles, se rencontrent, réunissent les élèves et réalisent des projets pédagogiques de grande qualité.
Oui. Alors justement, Galit, on se connaît aussi, puisque en fait tu es chargée de mission auprès d'une commission qu'on connaît bien, Mémoire et Transmission. Est-ce qu'on peut faire le point autour des dossiers aujourd'hui? Après, je donnerai la parole à Gabrielle qui, elle, nous fera, un recensement de ce qui se passe aujourd'hui au sein des différentes commissions. Parce que Dieu sait si on y travaille, Dieu sait si elles sont plurielles. Donc, quels sont les gros dossiers qui t'ont particulièrement frappé cette année, qui sont, porteurs d'une certaine originalité?
Oui, en fait, on a vu arriver dans le courant de l'année 2024 les grands projets qui voient le jour aujourd'hui, puisque vous savez, on travaille avec des délais relativement longs, parce que les procédures sont telles que chaque projet est regardé avec beaucoup d'attention, des experts, des commissions... le bureau de la Fondation.
Collégial, toujours collégial.
Voilà, donc les travaux sont éminemment collégiaux.
Collégiaux.
Et du coup, les procédures sont longues, et nous demandons également aux porteurs de projets de travailler, en tout cas de contacter la Fondation relativement en amont, de manière à avoir le temps d'examiner ces projets le plus rigoureusement possible. Et c'est vrai que nous avons vu arriver des projets dans le courant de l'année 2024 dont on s'est dit, tiens, ce sont les projets des commémorations à venir. Par exemple, on retiendra le film, la série documentaire de Catherine Bernstein qui va être projetée sur France Télévisions le 27 janvier même. Quatre volets dans le cadre d'une soirée dédiée à cette transmission de la mémoire. Et je suis, moi, personnellement très contente, parce que j'estime que ce film a une grande valeur pédagogique. Et donc, à terme, nous espérons que le film aura une vie dans les classes et que les enseignants l'utiliseront.
Et du reste, on voit de plus en plus de documents audiovisuels. On a quitté légèrement, très légèrement, l'espace du livre au profit de l'audiovisuel. Oui, est-ce que c'est un signe des temps ?
Je pense. Si on fait un petit peu le ratio entre les projets audiovisuels, nous recevons principalement des demandes pour des films documentaires. Oui. Les films de fiction sont plus rares, mais nous en recevons quand même. Disons que c'est 1/10 projets audiovisuels. Des livres, bien évidemment. Nous avons été sollicités plusieurs fois cette année pour des pièces de théâtre.
Oui.
Donc les compagnies de théâtre formulent des demandes, je trouve, très nombreuses et très variées.
Il faut le dire, il y a des vecteurs artistiques aujourd'hui pour la transmission qui sont très importants, y compris, par exemple, je parlais du livre, les bandes dessinées en font partie intégralement.
Tout à fait, voilà. Donc parmi les projets éditoriaux, nous avons reçu des demandes concernant ce qu'on appelle beaucoup des romans graphiques ou des albums illustrés, avec de très très belles choses qui vont voir le jour d'ici quelques semaines, d'autres qui sont déjà parus. On pourrait rappeler, la Fondation a soutenu ce très beau livre, très beau, très important et très utile et très bien documenté sur la Shoah par balle, Je n'ai rien oublié.
Oui.
Qui est une très belle réalisation, qui a été d'ailleurs primée dans le cadre d'un prix académique, il me semble.
Très bien réalisé, oui.
Oui. Voilà, donc c'est vrai que nous voyons passer énormément de projets. Tous ne se font pas avec l'accompagnement de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, parce que les délais ne permettent pas toujours aux porteurs de projets de formuler leurs demandes. Voilà, l'instruction est longue, comme je l'ai dit. Si je peux donner un ou deux coups de cœur.
Oui, bien sûr.
Voilà, j'ai apporté donc ce film de Michel Drache, qui date de 1974.
Qui est revu au bout du jour,
fait,
si je peux dire. C'est un beau film, du reste.
C'est un très beau film. Oui. Et ce qui m'a énormément touchée, c'est que les historiens de la Shoah ont ce film dans leur filmographie.
Oui.
Et on sait que c'est un des films parmi les plus importants qu'il faut avoir vu quand on s'intéresse aux représentations cinématographiques de la Shoah. Et pour ma part, le film date de 1974, je n'avais pas eu l'occasion de le voir.
Et bien voilà.
Et là, il se trouve qu'avec l'accompagnement de la Fondation, le fils de Michel Drache et de Marie-Josée Nat a eu l'occasion de réaliser un DVD des violons du bal, et le film a également été projeté en salle dans un cinéma à Paris au mois de décembre, et c'était pour moi une découverte vraiment magnifique, parce qu'en plus de l'intérêt documentaire, il y a aussi toute cette touche artistique. Et c'est ça qui me frappe.
Puis le jeu des acteurs qui est très émouvant. Et tu as amené aussi un autre DVD.
Oui, j'ai amené un autre DVD de Didier Rothen et Thomas Duranteau. C'est un film documentaire qui a pour titre Le cahier de Daniel Kahn. Et c'est l'histoire de Daniel Kahn, qui était une enfant cachée et qui a écrit son journal pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant sa vie cachée.
Donc, c'est un document
un film très important, très sensible, extrêmement bien réalisé, et qui, pour moi, rencontre toutes les qualités d'un film documentaire. J'insiste là-dessus. À la fois la sensibilité de l'auteur qui a réalisé le film, la sensibilité du témoin, et également toute la rigueur historique. Parce que ça, c'est la chose qui est regardée en premier.
Alors ça peut être diffusé auprès de l'éducation nationale, par exemple.
Tout à fait.
Puisque c'est rigoureux.
Oui,
c'est rigoureux,
tout à fait.
Voilà,
c'est un film pour moi remarquable.
Alors j'en profite pour vous le dire, j'ouvre mon cœur dans cette émission, il n'y a pas de secret. Vraiment, Razak, comme on dit, félicitations, c'est vrai, à la Fondation, parce que je vois de quelle façon vous œuvrez. Je parlais au début de cette émission avec passion. Il faut de la passion pour travailler dans ce gros bateau qu'est la Fondation Mémoire de la Shoah. Et j'ajoute que tous les dossiers qui arrivent sont examinés avec sérieux, d'abord en amont, parce qu'il y a une préparation très rigoureuse, et puis après, c'est examiné vraiment avec précision, avec rigueur. Et ça, on peut dire que, allez, je le dis, j'ouvre mon cœur, la Fondation, c'est l'honneur de notre pays. Ça me permet de me tourner vers Gabriel pour lui demander de nous faire un point autour des commissions et de l'importance des commissions aujourd'hui.
Et ça va être d'abord l'occasion de remercier l'ensemble des experts et des personnalités qualifiées dont tu fais partie, qui nous donnent bénévolement de leur temps, deux à trois fois par an, pour examiner avec nous et aider la Fondation dans ses prises de décision. Parce que c'est ça aussi la Fondation. C'est certes
une histoire d'hommes et de femmes.
Voilà, exactement. C'est une petite équipe de salariés. Absolument. Mais c'est surtout un très grand nombre de personnes qui nous donnent de leur temps. Et merci à eux et merci à toi, donc, Claude, du temps que tu nous donnes, non seulement pour cette commission mémoire et transmission qui a vocation à garder les projets qui seront à disposition du grand public, mais tu es aussi membre du comité de lecture de la collection Témoignages de la Shoah. Ouais.
Justement, tu fais bien de le rappeler, parce qu'il faut aussi féliciter Philippe Veil, parce qu'il est à l'origine, évidemment avec le comité, on est bien d'accord, il est à l'origine d'une publication maintenant extrêmement importante, qui porte témoignage, je dirais, du vécu de ceux qui ont été donc les rescapés et les survivants de la Shoah, et qui restent à tout jamais, à travers ces publications, publié, on peut le dire, par le manuscrit qui dépend donc de la Fondation Mémoire de la Shoah.
Nous sommes en coédition avec les éditions de manuscrits.
Coédition, c'est ça. Mais en plus de ça, vous le savez, je n'ai jamais caché, je suis vraiment un fan de ces publications, parce que c'est extrêmement bien fait. D'abord, on peut dire qu'il y a une vraie correction en amont, mais en même temps, c'est annoté sur le plan historique. C'est-à-dire que tout est vérifié. Et ça, c'est vraiment un témoignage pour l'histoire.
Peut-être
donc,
pour
bravo,
redonner,
bravo.
Merci beaucoup. Peut-être pour redonner pour nos auditeurs les fondements de cette collection, en fait, c'est Simone Veil
et
Serge Klarsfeld.
Et Serge Klarsfeld, bien sûr.
Qui ont considéré qu'il était important que ceux qui ne trouvaient pas d'éditeur puissent laisser une trace écrite, s'ils le souhaitaient, de ce qu'ils avaient vécu. Et donc, depuis 2004, cette collection est ouverte à des témoignages de déportés, d'enfants cachés, d'internés, d'anciens internés en France, ailleurs.
Est-ce qu'on peut dire, Gabriel, qu'il y a donc un document qui porte la trace de cette collection? C'est un catalogue, par exemple, de 2022, donc c'est quand même relativement récent. Et ceux qui voudraient se le procurer, c'est possible, par exemple? Est-ce que... Il y a une possibilité.
En ligne, sans aucun problème. Voilà. Il y a une centaine de titres aujourd'hui.
Justement, alors, ça nous permet de donner les références en ligne, là, tout de suite?
Oui, alors, si vous voulez connaître l'actualité de la Fondation, vous pouvez vous référer au site internet de la Fondation, www.fondationshoah.org.
Tout attaché.
Et sur le site, qui est mis à jour très régulièrement, vous avez à la fois la liste des projets soutenus, mais également... les procédures pour formuler une demande d'aide financière.
Très bien.
Ce qui signifie que les personnes souhaitant réaliser ou réalisant actuellement un projet et qui souhaiteraient faire une demande peuvent consulter sur le site toutes les modalités.
Oui. Très bien. Alors Gabriel, on revient un petit peu, faire une sorte de bilan autour des commissions. Je crois qu'il y a vraiment un privilège, je dirais, aujourd'hui, compte tenu de l'actualité, sur lequel on peut réfléchir, c'est évidemment la commission contre l'antisémitisme et évidemment l'aide à apporter aux survivants aujourd'hui qui sont dans un état de vulnérabilité.
Alors c'est vrai que 2024 a été en grande partie marqué par cette résurgence de l'antisémitisme.
Oui.
C'est même plus une résurgence.
Oui.
C'est sur cette poursuite d'un climat, d'un environnement, où l'antisémitisme est très très présent.
Oui.
Cette année, elle a continué
qui a flambé depuis le 7 octobre, il faut le rappeler.
Cette année, elle a continué d'être marquée par le 7 octobre et les conséquences du 7 octobre, tant en Israël, bien sûr, où on attend toujours et on espère la libération des otages, on est toujours en attente, mais aussi en France, avec les conséquences que ça a eu, sachant que le niveau des incidents antisémites était déjà élevé et qu'il a explosé depuis le 7 octobre. Peut-être que je laisserai Galit en parler, puisqu'elle est aussi la chargée de mission de cette commission lutte contre l'antisémitisme et dialogue interculturel, et qu'elle pourra mettre en évidence les grandes voies.
Alors,
et je garderai la parole
après
pour
alors,
les
justement,
de la
Shoah. Ce n'est pas pour rien que je plaçais d'abord en tête l'antisémitisme et je parlais de la vulnérabilité des survivants. Mais il est évident qu'avec cette flambée Ce prurit antisémite aujourd'hui, ça n'a fait que raviver, je dirais, l'angoisse, l'anxiété, la souffrance même des survivants, qui, en fait, on dit survivants, ceux qui sont nés avant-guerre et pendant la guerre, qui aujourd'hui, face à ça, eh bien, j'oublie pas que je suis aussi psychosomaticien, peuvent avoir des effets, précisément, on peut dire psychosomatiques. C'est important, ça, à signaler.
C'est d'ailleurs tout l'enjeu du colloque qui va avoir
voilà,
lieu
c'est
le,
ça,
30
on est bien
le
30 janvier. Oui, oui,
puisque
oui.
Bruno Eluard a souhaité, avec
bien sûr.
Des étudiants à lui, oui. Travailler sur l'impact et sur l'état de santé des survivants de la Shoah et a fait une étude spécifique post 7 octobre.
C'est ça, c'est ça.
Quel
était l'impact. Tout à fait.
Et là, je ne vais pas vous dévoiler les informations les données, mais
alors, justement, Galit, quel relais on peut faire entre les deux?
Il est vrai que dans ma collègue, Rachel, oui. La Fondation aborde les questions de solidarité avec les survivants de la Shoah, et elle a pu constater effectivement le climat, aussi bien en France et en Israël, d'anxiété. De mon côté, je suis en charge des projets relatif à la lutte contre l'antisémitisme et au dialogue interculturel. Ce qui signifie que nous traitons des demandes relatives à des actions mises en œuvre principalement par les associations ou des universités, ou des porteurs de projets variés, comme des producteurs ou même des initiateurs d'expositions. Et depuis le 7 octobre, les demandes se sont accrues. Avec toujours la nécessité de prendre en compte un paysage social et idéologique nouveau. Ce qui signifie qu'aucune des demandes qui nous sont parvenues depuis le 7 octobre ne fait fi de cet événement. Les porteurs de projets recentrent leur travail à la lueur de ce qui s'est passé. Donc c'est un évident qu'il y a un avant et un après le 7 octobre, y compris dans la manière qu'ont les associations de renouveler, penser leur travail. Mmh. Penser, c'est exactement le mot dans toutes ces orthographes et dans toutes ces acceptions, parce qu'il est surtout urgent de penser les mots, particulier des étudiants, puisque, vous le savez, dans les universités françaises, le climat n'est pas favorable et on peut saluer l'action notamment de l'Union des étudiants juifs de France qui réalise un travail important pour soutenir les étudiants juifs qui continuent quand même. Alors, la difficulté, ce que nous avons constaté d'assez malheureux, c'est que dans cet avant et cet après, là, le dialogue interculturel semble, pour certains opérateurs, acteurs de ce dialogue, un petit peu interrompu avec certains partenaires. Et ça, c'est un sujet vraiment de désarroi.
Oui.
Pour ce qui concerne la lutte contre l'antisémitisme, la Fondation a fait entrer dans son giron également les projets relatifs à la documentation et la conservation des traces de ce qui s'est passé le 7 octobre également.
Oui. Alors, c'est vrai que c'est vrai que alors, on va redonner la parole à Gabriel pour faire le point autour des commissions, mais je voudrais simplement ajouter un petit mot, c'est qu'il n'y a encore pas si longtemps, il y avait eu une journée de réflexion, je me souviens, organisée par la Fondation sous la présidence de Pierre-François Veil et de Philippe Allouche, du reste, avec différentes commissions sur place, pour essayer d'analyser, de décrypter ce qui se passe, qui est, on peut le dire, une véritable régression de l'histoire, et comment y faire face. Ça avait été une journée de réflexion autour de ces problématiques. Est-ce qu'un jour, alors c'est une question comme ça, est-ce qu'un jour on verra quelque chose publié par la Fondation sur le thème de cette journée qui s'est déroulée, je dirais, avec beaucoup de témoignages du reste de personnalités qui étaient présentes.
Peut-être pour redonner le cadre de cette réflexion, c'est-à-dire que la Fondation pour la mémoire de la Shoah, comme beaucoup d'organisations, a été touchée de plein fouet par ce qui s'est passé le 7 octobre et ce qui s'est passé après le 7 octobre, la guerre en Israël, l'explosion des actes antisémites, on l'a dit tout à l'heure, et qu'il fallait réfléchir à différents niveaux sur comment on intégrait ces événements dans la vie de la Fondation, dans sa manière de travailler, dans le type de projet qu'elle pouvait accepter. Donc, cette réunion que nous avons eue avec les bénévoles, ouverte aux bénévoles des différentes commissions, elle avait surtout vocation à permettre à chacun de s'exprimer, de donner son point de vue, de réfléchir, d'acter un état des lieux, de parler de ça, oui, des émotions que tout ça avait pu procurer. Il n'y avait pas l'intention de sortir quelque chose de concret, pas nécessairement. En revanche, ça a permis d'alimenter la réflexion du conseil d'administration de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. La réflexion est toujours en cours, sous la houlette, comme oui, tu l'as dit, de Pierre-François Veille. En tout cas, un des premiers effets, alors je rappelle qu'en 2023, la première réaction, ça a été d'apporter de l'aide. Et la Fondation a tout de suite répondu à un appel d'urgence de quelques organisations israéliennes pour permettre aux survivants de la Shoah qui avaient dû fuir la zone sud et la zone nord d'être accueillis dans des conditions décentes dans les hôtels où ils avaient été accueillis. Et on avait eu cette première étape d'une aide d'urgence, et cette étape-là s'est poursuivie tout au long de l'année 2024 par une réflexion de fond dans les commissions, avec l'ensemble des bénévoles, au conseil d'administration. Voilà, donc c'est quelque chose qui a permis, comme l'a dit tout à l'heure Galit, par exemple, d'ouvrir.
C'est ça, d'ouvrir.
D'ouvrir l'éligibilité, comme on dit dans un terme très technique. Voilà. En tout cas, de permettre à des associations qui travaillent sur le 7 octobre et le post-7 octobre de venir vers nous.
Alors, une réflexion qui me vient, c'est que, il faut le savoir, la Fondation n'est pas dans le ronron. La preuve, cette journée-là, elle avait pour but de réfléchir. Et je dirais que, en même temps, c'est une ouverture précisément sur l'universel. Parce qu'en fait, ce qui caractérise la Fondation, c'est qu'on dépasse, je dirais, le côté de la Shoah à l'endroit du peuple juif pour s'ouvrir aussi à d'autres réflexions concernant d'autres génocides, il faut le dire. Ça, c'est tout l'honneur de la Fondation. On est ouvert à l'universel. Revenons un petit peu aux commissions d'une manière générale. Donc, on a fait un point plus précis autour de la commission contre l'antisémitisme et l'aide aux survivants. Mais il y a aussi d'autres commissions où on travaille, il faut le dire. La culture juive, on travaille beaucoup. L'enseignement de la Shoah, on travaille beaucoup. Et d'autres encore.
Et la dernière qui est la recherche.
Et la recherche, voilà.
Et là aussi, on continue à avoir un nombre très conséquent d'étudiants, puisque la Fondation permet à des étudiants, sous la forme de bourses doctorales ou postdoctorales, de travailler sur les sujets qui sont les nôtres. Et tu as raison de rappeler que dans ce domaine-là, c'est à titre principal, bien sûr, tous les travaux de recherche sur la Shoah. Et il y en a encore sur la France. On est aussi amené à aider des projets qui s'appuient sur des recherches dans d'autres pays.
Disons-le,
européens.
C'est une recherche infinie. On ne peut pas circonscrire ce phénomène.
Elle est trop complexe. Et d'ailleurs, qui est vue sous des angles très, très différents. Il y a bien sûr une majorité d'historiens qui viennent vers nous, mais on a aussi, sous l'angle de la sociologie, de la philosophie,
bien sûr,
des arts.
Mais pas plus tard que la semaine dernière, je recevais à cette antenne, en fait, une enseignante de linguistique, parce que personnellement, j'estime que c'est une science humaine qui doit s'intégrer précisément, je dirais, à la matière historique. C'est-à-dire que l'histoire aujourd'hui, c'est la réflexion qu'on peut se faire, est dans l'obligation, d'une certaine manière, de convoquer les sciences humaines, linguistique, anthropologie, sociologie, tu viens de le dire, psychologie, philosophie, bien sûr aussi, parce qu'en réalité, je dirais, c'est les données modernes aujourd'hui. Il faut faire le plus large possible. Et là, dans ce sens-là, on se retrouve un peu sur les traces de Marc Bloch et de Fernand Braudel. Ils étaient créatifs déjà avant-guerre, ce qui est extraordinaire.
C'est extraordinaire. Et cette créativité, elle se poursuit aujourd'hui. Et on voit bien que l'historiographie
Il faut rajouter la géographie.
La géographie.
C'est important.
Peut-être, si tu me le permets,
oui, je t'en prie.
Je voudrais revenir sur le sujet des survivants de la Shoah.
Oui, bien sûr.
On les a évoqués et on a évoqué le choc qui a été le leur pour un grand nombre d'entre eux sur le post 7 octobre et sur le 7 octobre. Je voudrais évoquer aussi le travail qui a été mené par la Commission Solidarité tout au long de l'année, avec donc un certain nombre de bénévoles autour de nous, des médecins, des gérontologues.
Et puis, Mon ami Régine Lippe.
Exactement, Régine, pour s'interroger avec nos partenaires principaux, le FSJU, le CASIP, l'OSE, le CASIM, oui. Sur quels refaire un point aujourd'hui sur quels étaient les besoins des survivants de la Shoah en termes médicaux et médico-sociaux.
Médico-psychologiques, oui, aussi. Oui.
Et il y a eu une réflexion très approfondie qui a été menée, qui nous a conduit à considérer d'abord qu'il y avait encore des besoins pour ces personnes-là, notamment pour celles qui n'avaient pas eu la possibilité d'avoir une vie tout à fait sereine et qui se retrouvaient dans le grand âge, à la fois en difficulté financière, dans l'isolement, en perte d'autonomie. Et on a lancé un fonds d'innovation avec l'accord du conseil d'administration qui permet aux interlocuteurs du monde social et médico-social de venir vers nous dans tout ce qui concerne le domaine de la santé, notamment de la prévention.
Oui.
Et puis dans le domaine de l'aide à domicile, pour permettre encore et toujours le maintien à domicile. On sait qu'il y a une très très grande organisation, oui, qui s'appelle la CLEMS Conférence, qui apporte énormément aux survivants de la Shoah, pas, non seulement en les indemnisant, alors la CLEMS Conférence est le relais du gouvernement allemand en termes de réparation des victimes juives de la Seconde Guerre mondiale, mais la CLEMS Conférence a aussi la possibilité, par le biais de ces grandes institutions dont je parlais tout à l'heure, notamment le CASIM, mais aussi la DIAM en France, avec le relais d'autres partenaires, d'apporter des services pour permettre aux personnes qui sont en perte d'autonomie de rester le plus longtemps possible chez elles. Et nous avons vocation, bien à sûr, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, d'aider en complémentarité avec les fonds qui sont dédiés par la CLEMS Conférence.
Pour ceux qui sont dans ce cas-là, on peut se mettre en lien avec, en cliquant sur le site, se mettre en lien avec la Fondation qui, elle suivra en donnant des conseils pour à qui s'adresser.
Alors, c'est la première étape. Hein. Oui. Il y a la possibilité d'aller voir sur le site et il y a un certain nombre de ressources à disposition. Je voudrais surtout orienter vers Passerelle, hein, qui est le service du FSJU, avec lequel nous sommes en partenariat depuis de très nombreuses années, qui est entièrement dédié aux survivants de la Shoah, au sens où ils ont vocation à s'occuper en particulier de tous ceux qui étaient sur le territoire français pendant...
On peut saluer André Katz.
Voilà, on salue avec grand plaisir André
Katz. Je connais bien qu'il vient à cette antenne aussi pour adresser son message, justement.
Et toute son équipe aussi, sont...
Alors, j'en profite aussi pour saluer, parce que ça date de 2020, où on voit cette belle photo de notre ami Henri Borland. Henri Borland, qui est un monsieur pour moi, d'abord rescapé d'Auschwitz, mais c'est une figure exemplaire. D'abord, il a siégé tellement longtemps aussi à la commission Mémoire et Transmission. Moi, je ne peux pas oublier qu'il était toujours à ma droite, comme ça. Un homme charmant, mais exemplaire pourquoi ? Parce que cet homme qui est déporté à l'âge de 15 ans, il revient de déportation 15-16 ans, et en fait, il n'a pas fait d'études. Et il va se mettre aux études et il va commencer un corpus, des études de médecine qui veut le conduire à devenir médecin. Je trouve que ça, c'est quand on voit un itinéraire comme ça, c'est magnifique, quoi. Il aurait pu abdiquer. Ben non, il y en a d'autres aussi, comme Élie Buzyn. C'est pour montrer que, en fait, en réalité, il y a une force de vie qui a fait que, en fait, on a comme ça des itinéraires exemplaires. Et en fait, on est allé lui rendre hommage il n'y a pas si longtemps, puisqu'il nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Et vraiment, je voulais citer son nom aujourd'hui. J'ai effectivement le petit livret de la Fondation, le rapport d'activité qui date de 2020, où on le voit avec donc un jeune, parce que c'était la suite du livre de Karine Bouvatier, où elle mettait en perspective, je dirais, un déporté avec un jeune pour réaliser concrètement la transmission. Voilà, je referme la parenthèse. Oui.
Pas complètement refermé. Oui. Les photos de Karine Bouvatier vont être présentées à la mairie d'Orléans dans le cadre des commémorations du 27 janvier.
Très bien.
Oui, elle a fait de Henri Borland.
Un beau travail, un très très beau travail auquel modestement j'ai participé pour la postface. Des questions importantes aussi, c'est que est-ce que vous êtes d'accord pour dire que en fait pour faire ce travail au sein de la Fondation, et ça je pèse mes mots, c'est qu'il faut avoir, allez, je le dis clairement, un sens des responsabilités. Et j'ajoute, ce n'est pas n'importe quel travail. Vous êtes porteur d'une responsabilité parce qu'il y a des finances derrière tout ça. Il ne faut pas se tromper. Il faut donner à bon escient. Ce n'est pas si simple que ça. Je voudrais vous écouter l'une et l'autre.
Je crois que tu as tout dit. Et je dois signaler, oui, bien sûr, en tant que directrice générale adjointe, oui, la responsabilité qui est celle, voilà, prise en charge par chacun des chargés de mission, oui, dans son travail. Et à nouveau, par l'ensemble des personnes qui sont autour de la table lorsque les,
oui,
réunions se...
Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas si simple que ça. Quand il y a un projet, ça se travaille ce projet. Est-ce qu'on se dit quelquefois, est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis dans la bonne direction? C'est tout un tas de questions qui se posent, il faut le dire. On n'est pas des fonctionnaires.
Alors.
Voilà. De l'esprit.
De l'esprit. S'il se trouve que je, voilà, suis fonctionnaire d'origine.
Oui, oui, de l'esprit, j'ajoute de l'esprit, des fonctionnaires de l'esprit. Oui.
Oui, on parle de responsabilité, mais de responsabilité partagée. Ce qui est déjà un
très
petit
bien
soulagement.
Très bien.
On l'a évoqué, on a parlé de collégialité,
oui,
du fait que nous fonctionnons en commission,
oui,
qu'il y a énormément d'expertise, double expertise,
oui,
des regards différents sur les projets. Il arrive qu'on se dise, mais est-ce qu'on ne fait pas une erreur?
Voilà.
Pourquoi? Parce qu'il y a une très grande majorité d'excellents projets, mais il arrive parfois que certains projets ne convainquent pas.
Oui.
Ça me semble être rare, mais
oui,
ça arrive,
c'est
tout
ça,
de même. Le parti pris qui est le mien, et je pense aussi partagé à la Fondation, c'est que c'est malheureux de se tromper, mais parfois il vaut mieux se tromper dans le bon sens que dans le mauvais sens. Parce qu'il peut arriver aussi qu'on soutienne un projet avec beaucoup de conviction et on se rend compte au moment. Parce que les projets,
oui,
qui nous parviennent, ils ne sont pas encore prêts
aboutis
ni réalisés. Donc nous travaillons,
oui,
aussi,
oui,
sur quelque chose en devenir. Et
c'est
parfois,
ça,
le résultat n'est pas à la hauteur des attentes. Donc il peut y avoir une déception. Bon, ça arrive. Quand on est en plus dans l'erreur historique, là, ce n'est pas une déception, c'est carrément un mécontentement, voire une petite colère. Et puis parfois, il y a de très beaux projets que la Fondation n'a pas soutenus, mais qui s'avèrent être des petites opportunités manquées.
Oui.
Ceci dit, quand c'est très très bien, le projet trouve, indépendamment,
oui,
de la Fondation, son public, son parcours, et fonctionne. Et c'est aussi une manière de,
oui,
l'occasion de...
Ça me fait penser juste, vous vous souvenez, Marcel Proust qui remettait son manuscrit à Gallimard et qui avait été refusé, par exemple.
Voilà.
C'est dans un autre ordre d'idée.
On essaye d'éviter ça. Je voudrais juste peut-être compléter en disant que le rôle de la Fondation pour,
oui,
la mémoire de la Shoah et le rôle des chargés de mission,
oui,
en particulier, c'est un rôle complet qui est certes de permettre à la Fondation de prendre, d'accompagner en fait la vie d'un projet qui vient vers nous pour faire en sorte que la Fondation prenne la meilleure décision possible, que ce soit au moment de l'instruction du dossier, de la présentation à la commission. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est pas juste, c'est pas seulement,
oui,
on va dire, la vie ne s'arrête pas au moment où la Fondation donne une aide financière. C'est tout l'accompagnement qui va avec. Et je crois que là aussi, il y a une forme d'engagement de la part,
bien
de
sûr,
la Fondation qui est de valoriser au maximum le projet en lui donnant toutes ses chances. D'abord en faisant parler du projet, et je voudrais saluer,
oui,
le travail de l'équipe de,
oui,
communication qui travaille,
bien
avec
sûr,
chacun des chargés de mission pour valoriser chacun des projets. Et on sait que pour certains porteurs de projets, le fait d'être relayé sur les réseaux sociaux de la Fondation, d'être signalé dans la newsletter de la Fondation. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire à cette newsletter, il suffit d'aller sur le site. C'est très, très important pour ces porteurs de projets, mais c'est aussi un accompagnement dans le temps. Je pense en particulier au travail que
oui,
Galit évoquait, qui est par exemple sur les documentaires.
Oui.
Lorsqu'on a un dialogue avec les sociétés,
oui,
de production, très souvent, on est amené à échanger sur tel ou tel point et on assure une continuité. Et ça permet aussi d'enrichir,
oui,
les projets.
Oui.
Et souvent, les porteurs de projets nous disent, c'est vrai que vous nous mettez le doigt sur tel ou tel sujet. Super, merci. Ça va enrichir notre projet et,
oui,
on va être encore mieux dans l'objectif qu'on a de transmettre,
oui,
au grand public en particulier.
Alors, je parlais,
ou aux jeunes en,
oui,
particulier.
Je parlais du sens de la responsabilité, j'ajouterais effectivement un sens éthique. Hein. Voilà, c'est un sens éthique, c'est-à-dire d'être dans la justesse, pour ne pas dire dans la justice par rapport au projet. Et en même temps, alors, j'ai envie de vous demander, mais ça c'est une question comme ça personnelle, depuis que vous êtes engagé, investi auprès de la Fondation, en quoi ça vous a enrichi, je dirais, allez, osons le mot, intellectuellement, spirituellement peut-être, en quoi finalement ce travail, qui n'est pas n'importe quel travail, vous porte, allez, j'ose le dire, existentiellement parlant. Question difficile, mais autant se connaître un peu plus, je dirais. Derrière l'engagement, il y a aussi une âme humaine. C'est ça que je veux entendre de votre part.
Bon, moi, vous le savez, j'ai rejoint la Fondation il y a justement. 16 mois,
oui.
Après un long engagement associatif
en faveur de
l'enseignement de l'histoire de la Shoah. Oui. Donc, c'était un peu une suite logique et naturelle. Une ouverture, puisque après avoir travaillé en particulier avec des enfants cachés, sur la transmission à destination d'un jeune public avec une pédagogie très particulière, j'ai vu arriver en entrant à la Fondation une plus grande variété de projets sur des supports différents, avec des ambitions différentes, et puis également des moyens d'action différents. Donc c'est vrai que le fait de rejoindre maintenant la partie du financeur et permet aussi de voir davantage de projets éclore. Personnellement, l'apport de la connaissance de l'histoire des autres génocides reconnus a été pour moi un enrichissement personnel très grand, puisque l'année dernière, comme vous le savez, a été la grande année de commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda.
Oui.
Et la Fondation a soutenu en particulier une très belle exposition. Donc c'était très enrichissant.
Un apport humain important. Oui. Un apport humain. Il nous reste un peu de temps aussi. Gabriel, tu ne coupes pas la même question.
Alors, moi, ça fait quelques années que je suis maintenant à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et ça a bien sûr changé, enrichi ma vision des choses. D'abord parce que c'est une équipe très attachante, un conseil d'administration composé de gens extrêmement... très diversifié, très haut niveau intellectuel, des rencontres avec des gens que je n'aurais jamais rencontrés sinon. Et puis, la possibilité, dans un cadre professionnel, d'être finalement une militante.
C'est ça.
Et ce militantisme, il est en lien direct avec ma propre histoire familiale. Donc, ça m'a permis aussi de recaler quelque chose.
On avait reçu ton père, cette émission, qui a fait un très beau livre.
Merci infiniment, voilà. Et surtout la mère de mon mari qui était enfant caché.
Absolument.
Alors du coup, voilà. Il y a
un bain familial. Hein. Vous êtes
porté. Ça a permis aussi de porter les choses. Ça m'a permis aussi de m'ouvrir... à une dimension que je connaissais, mais que je connaissais moins bien, dans le domaine de la culture juive, dans le domaine des institutions communautaires. Mais au-delà de cet environnement-là, c'est une ouverture à un nombre très, très important d'environnements. Ça n'est pas que l'environnement juif. Et d'ailleurs, il faut que ce ne soit pas que l'environnement juif. Sinon, ça n'aurait pas de sens.
Si tu permets, je voudrais quand même rajouter, parce que tu dis une chose très importante, c'est que, en fait, vous êtes sur le terrain. C'est-à-dire, vous ne vous cantonnez pas dans votre bureau. Vous allez à la rencontre des manifestations, à la rencontre des associations. Vous êtes, je dirais, de plein pied avec eux pour lutter. C'est ça qu'il faut dire.
On les accompagne, oui.
Et bien sûr, que ce soit... Philippe, toi, Galit et Rachel et toute l'équipe. Donc, c'est ça qu'il faut saluer, parce qu'en fait, c'est véritablement un investissement, je dirais, allez, corps et âme. Hein. Voilà, on se reverra, parce qu'il faudra refaire un point autour de la Fondation Mémoire et Vigilance, Mémoire et Vigilance en lien avec la Fondation Mémoire de la Shoah, et puis, souhaiter longue vie à la Fondation, parce qu'encore une fois, et je le disais avant de commencer notre entretien, c'est que Saul Friedlander, autrefois, il y a des décennies, à la Sorbonne, qui présidait un colloque sur la mémoire de la Shoah, disait à l'époque, plus on va s'éloigner de la Shoah, plus on va être demandeur de connaissances, et plus on va travailler, plus il va y avoir de la recherche autour de ce phénomène. Et on est en plein dans le système aujourd'hui. Voilà. Merci Gabriel Rochman, merci Galit Touati.
Merci Claude.
Merci à tous ceux qui n'étaient pas là, mais qui sont présents avec nous, toute l'équipe. Chers amis, à mercredi prochain.
Mémoire et vigilance vous a été présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.